aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Le Beatnik Show, la meilleure playlist de rap au Québec. Des talents locaux, des nouveautés, la crème du hip-hop québécois. Avec votre MC, Nick Leclerc.
Lundi, 18h30.
Au 94.3. Chiz.
Oh yeah, Chiz.
Pour le meilleur beat, Beatnik Show, man. T'as le dit, c'est malade.
Tu passes dans le hood, en fin de semaine, la semaine prochaine c'est good. Désolé, j'ai pas d'expact depuis un bout. J'ai quelques regrets, mais je reste debout.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Ici Erika Zaria, je vous présente Beat Boîte, une émission hip-hop dans laquelle je pars à la rencontre des acteurs émergents et établis du milieu local et international. C'est tous les mercredis à 21h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Bon dimanche midi à tous, bienvenue à l'émission des Kiwis et des Nerds, votre rendez-vous hebdomadaire des dimanches midi. Avec moi en ondes, donc, des Kiwis que vous connaissez ou que vous allez apprendre à découvrir et à aimer, donc notamment François.
Bonjour, bonjour.
François. Et Judith.
Salut, salut.
Avec nous, donc, Jérémy Germain, qui donc est le faux Jérémy, le Jérémy numéro 2, nous rejoindra sous peu. Et moi, je me présente, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Jérémy Thibault, animateur des Kiwis et des Nerds. Je suis aussi animateur de jeux de rôle Donjons Dragons. C'est mon métier à temps plein, nerd depuis que j'ai au moins 9 ans, facilement. Ce qui fait qu'on devrait avoir beaucoup de plaisir autour de la table aujourd'hui ou dans nos voitures. On va donc commencer avec nos anecdotes. Moi, de mon côté, j'ai fait beaucoup d'activités cette semaine, notamment beaucoup joué à des jeux de société. J'ai découvert des petites pépites récentes ou plus anciennes. Et un élément que je trouve quand même assez fascinant, c'est qu'au même titre que les mécaniques de jeux vidéo que les, ont beaucoup évolué, les mécaniques dans les jeux de société aussi ont beaucoup changé. C'est-à-dire que il y a certains jeux qui, bon, ce sont toujours des jeux très plaisants, notamment Risk, que maintenant il y a des itérations différentes qui sont apparues et qui ont fait évoluer le concept. Parce que...
Effectivement, il y a beaucoup de jeux comme ça qui sont pas des, c'est ça, qui sont des bons jeux en tant que tels, mais qui souvent, en fait, une des caractéristiques des vieux jeux, c'est qu'ils sont trop longs.
Ouais.
La même histoire se répète trop longtemps, alors qu'il y a des nouveaux jeux qui vont reprendre souvent les mêmes mécaniques, ou bien même carrément le même jeu, mais en le modifiant un peu, pour justement que ça dure, que ça soit plus condensé, plus le fun. T'sais.
Ouais, exact. Parce que l'un des enjeux de nos vieux jeux de société, c'est que ça pouvait durer 6, 7, 8 heures parfois. Là. Une game de risque, c'est long,
non, c'est
en motadine.
Pour qu'un jeu soit bon 6 heures, il faut vraiment que ce soit un très bon jeu.
Ou que tu n'aies vraiment rien à faire, non, que les jeux vidéo n'aient pas été inventés.
C'est clair.
Mais ce qui m'avait fait beaucoup penser, que notamment un jeu comme Risk, c'est un jeu dans lequel, et vous m'excuserez l'anglicisme, c'est un jeu dans lequel on snowball. C'est-à-dire que plus tu gagnes, plus ça devient facile de gagner. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve qu'on a bien compris avec le temps, où ça devient déplaisant, parce qu'au final, tu fais juste te manger une volée pendant 2 heures parce que tu as eu un très mauvais début de jeu.
Ouais, à l'inverse, il y a souvent des mécaniques pour ramener des gens dans la partie quand t'es en retard. Puis justement, l'idée souvent dans les jeux, c'est que quand on sait que quelqu'un gagne, ben à un moment donné, il faut que la partie finisse.
Ben, exact. Ce qui me fait notamment penser au jeu Civilization, lorsque tu joues en ligne à Civilization 6, généralement, au bout de 50 tours, t'es pas mal convaincu de c'est qui va gagner, fait que tout le monde quitte. Alors que
ça se rend pas jusqu'à la fin.
Non, anecdote à l'intérieur de mon anecdote, j'ai fait quelques parties de Civilization 6 en ligne pendant la pandémie, et un des trucs que j'ai trouvé très, très, très étonnant, c'est qu'à partir du moment où tu commences à gagner, ça devient très clair dans la tête de tout le monde que c'est plus possible d'en revenir, là, parce que normalement, le joueur, il sait ce qu'il fait, là. C'est pas l'intelligence artificielle qui, elle, peut faire des erreurs. Normalement, l'humain, s'il sait un petit peu jouer, il devrait pas faire d'erreurs trop grosses. Fait qu'après 50 tours, même si la partie en dure 250, tout le monde est parti, t'es de retour à jouer en solo au final. C'est un peu dommage de ce côté-là, mais je pense que c'est inévitable pour des jeux.
C'est un jeu qui se prête moins bien au compétitif, je pense, à cause que le début est trop important.
Ouais, comme de quoi que ce qui fonctionne le plus dans le mode en ligne de Civilization 6, c'est son mode Battle Royale. C'est une vraie histoire. De ton côté, François?
Oui, ben moi, ce que je dirais, une chose que je trouve bien drôle, donc moi, juste pour rappeler aux gens ou dire à ceux qui ne sauraient pas, je travaille au Randolph, donc comme animateur de jeux de société, j'explique des jeux de société aux gens. Puis une chose que je trouve drôle des fois, c'est t'expliques le jeu, puis là, tu vois, les personnes, ils ont vraiment pas de l'air sûr. Mm-hmm. Puis là, t'es comme, on t'explique ton jeu, puis t'es comme, là, OK, mais là, c'est-tu correct? Puis là, ils sont comme, ouais, on y va, puis ils ont pas l'air sûr comment ils se lancent. Puis finalement, le jeu finit, ils sont comme, ah ouais, c'était malade, on l'a tout pris en photo, puis t'es comme, bon, oh, mec, tant mieux. Prochaine fois, essaye de le dire plus à votre visage en cours de partie. Ça serait aidant pour moi, mais c'est correct.
Ouais, ben c'est l'enjeu, en fait. C'est pas toujours simple de savoir si les gens passent un moment agréable, parce que parfois, même pendant la partie, ils sont pas au courant s'ils sont en train d'aimer ça.
Quand t'expliques les règles aussi, les gens sont concentrés, surtout quand c'est de quoi qui est un peu plus complexe, ou en tout cas dans le plus complexe qu'ils peuvent prendre. T'sais, ils sont occupés à réfléchir et à essayer de bien comprendre ce que tu dis. Fait qu'ils ont pas nécessairement le visage qui exprime le bonheur, mais ça veut pas dire qu'ils ont pas de plaisir ou qu'ils vont pas avoir de plaisir quand le jeu va commencer.
Ben tout à fait, j'en avais parlé dans une de nos précédentes chroniques, mais un des groupes qui est le plus difficile, je trouve, de savoir exactement s'ils ont du plaisir ou pas, puis c'est quoi leurs intentions, c'est quand tu vas travailler avec des adultes, parce que les enfants, c'est quand même assez clair, parce que ils t'écoutent, mais ils sont surtout en train d'avoir du fun, là. Ça va être très, très, très expressif, alors que les adultes, ben c'est ça, ils vont être focusés sur apprendre à bien jouer, essayer de comprendre le jeu. Parfois même, il y en a qui sont très compétitifs, ils veulent vraiment gagner, fait que le jeu, c'est sérieux.
C'est ça. Non, c'est pas du tout les mêmes défis avec adultes. En fait, d'ailleurs, ça pourrait être une chronique éventuellement, c'est une bonne idée.
Tout à fait. vous ne le voyez pas, mais moi, je vois François essayer de prendre des notes à l'instant, là. Et de ton côté, Judith, quoi de nouveau depuis la dernière fois que tu es venue à des Kiwi et des Nerds?
Tellement de choses s'est passé. Mais je vais y aller juste avec hier, parce qu'il était quand même assez rempli. J'ai fait du paddleboard, puis après ça, je suis allée au musée. Je suis allée voir Pompéi.
Oh.
Puis le truc au merde, ça m'a levé le cœur.
Au merde, ça, c'est l'exposition sur les toilettes, c'est ça?
Ah oui, ouais. T'avais même un banc que tu pouvais t'asseoir pour péter. Ah! Puis ça disait la température, ton son.
Oh, je suis fascinée.
Toutes des informations que je savais pas que je voulais savoir.
Ça fait plaisir.
On découvre des choses aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez envie de savoir quelle est la chaleur de vos pets, il suffit d'aller au musée de la, c'est le musée de la civilisation, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça.
Très civilisé, tout ça.
Mais blague à part, j'ai entendu dire que cette exposition-là était quand même intéressante dans la mesure où on apprenait les différents modèles de toilettes qui avaient été utilisés
au travers de l'histoire. Je me suis tellement lavé les mains, là.
La dernière fois que tu t'es autant lavé les mains, il y avait une certaine pandémie qui commençait,
ouais,
j'imagine.
C'est ça.
Formidable, formidable. Donc, sans plus attendre, on peut commencer avec notre chronique, si tu nous le permets, François, notre chronique jeux de société. On va
Bien
parler
sûr.
De jeux collaboratifs, mais avec communication réduite.
Ouais, c'est ça. Parce qu'effectivement, comme on disait tantôt, les jeux de société ont beaucoup évolué tellement que c'est rendu un sujet extrêmement large. Mmh. Fait que j'avais envie de parler d'un type de jeu plus spécifique aujourd'hui qui, en fait, même ça, je pourrais même pas vous parler d'assez d'exemples que je trouve intéressants. Donc, dans le fond, moi, de quoi je veux vous parler, c'est ça, c'est les jeux collaboratifs. Donc, les jeux coopératifs, c'est des jeux dans lesquels on va travailler tout le monde ensemble. Fait qu'à l'inverse des jeux classiques qui sont plus compétitifs. Donc, c'est un jeu justement où qu'on va se battre contre le jeu ou qu'on va avoir un défi commun qu'on va essayer de relever. Ce qui est un peu plus difficile à faire quand tu fais des règles, parce que, en tout cas, mais tout de même est-il que c'est ça. Mais même dans cette catégorie-là, ça a beaucoup évolué depuis, ça fait peut-être 15 ans que ça existe à peu près, ce genre de jeu-là. Donc, ça a beaucoup évolué. Et puis, Maintenant, c'est ça. Donc là, un type spécifique de jeu que moi j'ai envie de vous parler, c'est souvent des jeux dans lesquels on va se parler beaucoup. Mm-hmm. Parce que justement, on travaille ensemble, on veut essayer de faire quelque chose ensemble, on va se parler pour essayer d'arriver à un objectif commun. Mais là, il y a plusieurs jeux qui sont sortis dans lesquels la communication, elle, est plutôt limitée d'une façon ou d'une autre, qui fait que cette communication-là qu'on a besoin pour se comprendre... donc, va être plus difficile.
On n'est pas dans un keep talking and nobody. C'est keep talking or somebody explodes. Quelque chose.
Ouais. C'est ça. Mais en fait, c'est ça. Mais une des choses intéressantes avec ça, c'est justement un des problèmes des jeux coopératifs. C'est souvent, tu as une personne qui est meilleure que les autres, puis qui va un peu conduire toute la game, puis finalement, qui va faire la partie tout seul, puis qui va dire aux autres quoi faire. Mm-hmm. Mais un des avantages de jouer avec communication limitée, c'est que ça va être moins présent. Donc, tu peux moins dire aux autres qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent exactement, puis comme, ben là, j'ai pas le choix de le faire parce que clairement, c'est la meilleure idée, parce que c'est limité ce que la personne peut te dire. Mm-hmm. Puis ça peut être limité de différentes façons. Je pense que le premier jeu que j'aimerais vous parler, en fait, c'est Just One. Just One, qui est un jeu très simple. En fait, moi, c'est ma découverte de l'année passée. Là. Je l'ai acheté. Donc, quand je suis arrivé au Randolph, là, après ça, je l'ai acheté pour les parties de Noël, puis c'était vraiment parfait. Dans le fond, c'est un jeu dans lequel on va tenter de faire deviner un mot à quelqu'un autour de la table. En fait, tout le monde travaille pour faire deviner un mot à une personne. Fait que, comment qu'on fait pour faire deviner ce mot-là? On va chacun écrire un indice consistant en un mot sur un petit chevalet. Et puis, une fois que tout le monde a écrit son indice, on s'y montre. Et s'il y a deux personnes ou plus qui ont écrit le même mot, ils doivent l'effacer. Oh. Et finalement, la personne va tenter de deviner avec les mots qui y restent. Fait que des fois, le mot que tu essaies de deviner, c'est Barbie, puis tout ce que t'as, c'est limousine. C'est pas facile dans ce temps-là.
Non, effectivement. Puis l'enjeu, c'est que si tu mets un mot qui est trop évident, qu'il y a trop de chances de donner un bon indice, les chances que quelqu'un d'autre l'ait écrit sont quand même élevées.
Ce qui fait qu'au final, tu supprimes l'indice. Fait que t'essayes de donner un indice qui va aider pour vrai, mais qui en même temps est pas trop évident non plus. Fait que tu sais, il y a comme deux niveaux de communication limitée, autant avec la personne qui essaye de deviner, mais aussi avec les autres autour de la table. Parce que là, tu regardes les autres, t'es comme... Toi, je le sais là, que tu vas écrire ce mot-là. Fait que moi, je vais changer mon mot. Tu sais, tu le regardes dans les yeux, t'effaces ton affaire, t'écris autre chose, puis là, l'autre personne te regarde aussi, puis comme... Ouais, OK, je pense que je vais être correct, là, je vais le laisser.
On vit la scène du match de tennis dans Death Note. Je sais que tu sais qu'il sait que je sais que tu sais.
C'est ça. C'est vraiment drôle. T'as tout le temps quelqu'un qui dit « Ah, c'est sûr que t'as écrit ça. » Puis là, après ça, il te le dit, puis t'es comme « J'aurais jamais écrit ça. » Je suis même pas proche de penser à ça.
Oh, formidable.
Fait que ça, c'est ma première, en fait, une suggestion très générale, ça. En fait, peu importe... vous êtes qui, puis ça peut jouer dans différentes langues aussi, là.
Ben oui,
même
forcément.
Si on n'a pas le jeu de base, techniquement, nous, on avait joué sans le jeu de base. Là, tant qu'on a de quoi qui donne des mots random, on peut jouer.
Arrangez-vous que tout le monde parle la même langue quand même, parce que j'imagine que ça doit être plus propice.
Ça va être préférable.
Donc, Just One, juste un, qui est un jeu qui est de société, qui est facile d'accès, en fait. Que
oui, mais c'est
acheter,
ça. Ben, en fait, moi, c'est...
J'imagine
oui.
qu'on peut se le procurer au Randolph.
Oui, évidemment. Et puis, en fait, un peu partout. Là, donc, il est à... Environ
27,90.
Moi, ça est une trentaine de dollars là, maximum. Là. Fait que ça s'achète bien, puis ça s'explique bien à tout le monde, même justement aux familles. Donc ça, moi, c'est un des jeux que je sors le plus souvent, là, parce que ça fit avec pratiquement n'importe qui. C'est ça qui est intéressant. Fait que pour continuer dans la communication limitée, mais on va y aller vers autre chose cette fois-là. Je vais avec Mysterium, qui est un jeu qui est, bon, anecdote maintenant, qui moi, à l'origine, quand je l'ai acheté, je planifiais pas l'acheter. J'étais... donc, dans un magasin de jeux, je voulais acheter un jeu. Mais en fait, je voulais acheter un autre jeu, puis il l'avait pas. Fait que j'ai comme fait, bon, ben, j'ai du budget pour acheter un autre jeu. Fait que je suis allé vers de quoi. Finalement, j'étais une même semi-random.
Ce qui serait pas arrivé si t'avais écouté tes propres conseils sur comment bien acheter son jeu de société il y a quelques semaines.
C'était avant mon évolution de connaissance des jeux de société. Mais finalement, ça avait été j'ai été très chanceux. C'était un excellent choix. Donc ça, je l'ai essayé... dans ma famille et tout ça. Donc, dans les temps que je l'avais, ça a été dans les jeux les plus populaires que j'avais, qui se joue, peut jouer jusqu'à 7 joueurs à la base. Ils ont fait une nouvelle version aussi, Mysterium Parks, qui est globalement le même jeu, mais un peu plus rapide, bien qu'à mon avis, un petit peu plus complexe, parce que les dessins se ressemblent un peu plus. Parce que c'est quoi ce jeu-là, dans le fond? C'est un jeu dans lequel il va y avoir une personne qui est morte. C'est un fantôme. Et puis... tous les autres joueurs vont tenter de découvrir qui a tué cette personne-là, à quel lieu, avec quelle arme. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cet assemblement de trucs.
Voilà qui est bien étrange. Ça me fait penser au Monopoly. Non, bien évidemment, on parle de clous.
Et puis, donc c'est ça, donc on va essayer justement de découvrir ça. Donc on va trouver des suspects. Donc chaque personne, en fait, à chaque personne, il va avoir un suspect, un lieu, puis une arme. Donc là, moi, mon rôle en tant que joueur, en tant que médium, c'est de savoir quel, donc le message, le fantôme va me passer un message pour que je devine c'est qui mon personnage que j'essaie de trouver, mon suspect. Et puis comment est-ce qu'il va faire ça? C'est qu'il va me donner une image. Donc c'est la seule communication qu'il y a entre le fantôme et les joueurs, c'est des images. Il fait comme envoyer des songes, fait qu'il te donne une carte avec plein de dessins. Donc ça, je vous conseille d'aller voir par vous-même, là, c'est dur à décrire.
Ouais, mais
donc,
les dessins sont vraiment magnifiques, là.
Ah oui, c'est vraiment des très beaux dessins, puis extrêmement pas clair. T'sais, c'est pas comme, j'ai une carte avec un chat au milieu, là. C'est non. Comme une scène où il y a plein d'affaires, j'ai une maison avec des fourchettes qui tombent, puis un genre de lit en baldaquin accroché après un arbre. En tout cas, c'est vraiment, il y a plein d'affaires comme ça, puis la personne te donne une ou deux cartes, puis là, t'as regarde ça, puis t'es comme, mais il a l'air d'avoir beaucoup de ronds, fait que ça doit être l'horlogère qu'il essaye de montrer. Mm-hmm. Puis là, il va y avoir de la communication pleine entre les autres joueurs. Mais le fantôme, toujours, lui, il est très limité dans sa communication qu'il peut faire au médium. Mais les médiums, entre eux, vont se parler, vont justement se dire, puis dire, non, clairement, c'est ça qu'il voulait dire. Ça, c'est le mot le plus dangereux dans ce jeu-là. Clairement, c'est ça.
C'est pas ça, je suis désolé.
Non, c'est ça. Mais ce qui est un autre aspect intéressant, c'est que la communication est limitée dans un sens, mais pas dans l'autre. Fait que les joueurs vont dire plein de choses, puis le fantôme aussi, lui, doit écouter. Mm-hmm. Donc, faut vraiment développer son écoute quand on est fantôme, parce que les gens vont dire des affaires, puis t'es comme, je vais leur donner des indices selon ce qu'ils disent. Là. Moi, je suis le pire dans ce temps-là parce que moi, je dis des affaires genre « Ah ouais, là, s'il me donne une carte, ça veut dire telle affaire. » Puis finalement, il me donne la carte. Puis là, je suis comme « Ah, mais peut-être ça veut dire ça aussi. » Puis là, t'as le fantôme qui me regarde « Voyons, tu viens juste de dire...
» Tu viens de dire la bonne affaire. Pourquoi tu changes d'avis? Non, effectivement.
C'est ça. Fait que un jeu très intéressant à ce niveau-là. Puis les images sont super belles, comme on dit. Là.
Ouais, mais t'as dit un élément intéressant. En fait, ça peut permettre de développer l'écoute. Je trouve on sous-estime à quel point les jeux de société, ça peut être fort d'un point de vue relations humaines. Là, mais aussi en termes d'entreprise, mais aussi de bâtir des liens. Mais si vous êtes une entreprise, il y a tout plein de jeux de société qui existent, mm-hmm. qui justement vont te permettre de dénoter qui sont les leaders. Bon, les jeux à communication limitée, généralement, j'imagine qu'ils vont être évités, mm-hmm. parce qu'on veut voir c'est qui va prendre le lead, qui va dire à tout le monde comment faire.
En même temps, ça dépend ce que tu essayes de développer, justement.
Exact. Sauf que ça peut être un jeu magnifique si, je sais pas moi, vous avez une entreprise puis vous voulez qu'un de vos employés apprenne à être plus à l'écoute. Ça mm-hmm. peut être le fun de par hasard, comme ça, beau pif, là, c'est lui le fantôme.
C'est ça. Effectivement, je pense que ça peut être un bon... le pouvoir éducatif des jeux est très important, autant pour les enfants que les adultes, mm-hmm. effectivement. Là. Ouais.
Une étude que j'aime bien citer, qui parle beaucoup de l'intérêt de la fiction, vient aussi mentionner que le cerveau des enfants apprenne plus facilement lorsque c'est fait sous forme de jeu. Puis ça, c'est vrai autant pour le développement physique que le développement psychologique. Mais ça reste, j'ai l'impression, quand même vrai avec les adultes, surtout maintenant qu'on est plus ouvert par rapport à ça. On remonte à une vingtaine d'années, un adulte qui joue à des jeux vidéo, c'est pas tout à fait bien vu. Là, maintenant, il y a des gens que c'est leur métier. Il y a des adultes de 40 ans que leur job, c'est de faire le pitre en jouant à des jeux vidéo pour divertir les gens. Puis je dis pitre, c'est avec tout l'amour du monde.
C'est ça, ta job, c'est d'être divertissant.
Exact. Fait que t'es pas divertissant si tu fais juste avoir tes réactions entre parenthèses.
Normal. C'est ça. Effectivement, je ferais pas juste me filmer quand moi je joue à des jeux chez nous puis les mettre sur Internet. Ça serait pas super le fun.
Quoi que ça peut devenir un concept, je joue à des jeux vidéo incroyables en ayant une expression neutre.
Non, c'est ça.
Chaque fois que je souris, un électrochoc, quoi.
Mais non, effectivement, je pense que l'apprentissage par le jeu, parce que c'est ça, en tant qu'adulte, on développe un peu plus notre capacité à avoir le long terme. C'est pour ça qu'on est capable plus d'apprendre. On est capable plus d'apprendre, même si on ne joue pas. Mais ça reste plus agréable et plus facile d'apprendre en jouant.
Tout à fait.
Pour revenir effectivement à notre Mysterium, un jeu dans lequel effectivement on développe notre communication, notre écoute, mais notre communication d'une autre manière. Puis ça nous amène à réfléchir différemment. Parce que ça, contrairement à d'autres jeux, d'ailleurs, il y a des gens avec qui j'ai joué qui ont haï ce jeu-là parce que c'est un jeu qui n'a pas de réalité objective. Tu peux pas dire. Tu peux pas dire « Ah, c'est ça la réponse », t'sais. Contrairement à d'autres jeux, mettons, ce que tu peux évaluer, tu prends des décisions, mais tu pourrais théoriquement avoir une décision optimale qui était la meilleure décision.
Ouais.
Ça, dans ce jeu-là, c'est 100% de la communication puis du relationnel. Tu donnes une carte à quelqu'un, c'est qu'est-ce que moi je vois ou qu'est-ce que je pense que l'autre personne va voir dedans. C'est quoi le message que je pense que la personne veut me donner. Fait que ça, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là, c'est vraiment particulier. Puis je trouve qu'il se distingue beaucoup de beaucoup d'autres jeux à cause de ça.
Ouais, mais au final, comme tu le dis, sans nécessairement dire que c'est une évolution par rapport à Clou, mais c'est ça l'a pris un concept qui existait déjà, puis oui, ça l'a été développé autour.
C'est la thématique qui se rapporte, mm-hmm. Mais au niveau de la mécanique, donc de comment que le jeu se joue, ça c'est extrêmement différent, là, mais le look se ressemble un petit peu.
Formidable.
Puis comme je disais, en fait, la nouvelle version aussi qui est Mysterium Parks, qui est un peu plus... qui est un peu plus rapide à jouer, donc aussi plus facile à expliquer. Donc moi, c'est celle-là que je présente d'habitude. Puis sinon aussi, il y a une autre version de ce jeu-là que je trouve intéressante, Obscurio, même si je m'éloigne un petit peu de ma catégorie, parce que dans le jeu Obscurio, bon, qui est un petit peu différent, mais c'est globalement le même principe de t'essayer de faire deviner des affaires et des images, sauf que t'as en plus un traître.
Dun, dun, dun.
Fait que dans les médiums, mettons, là, donc c'est pas exactement la même thématique, mais en tout cas, mais dans les médiums, donc les gens qui devinent, t'en as là-dedans qui essayent d'induire les autres en erreur, mais sans trop paraître qu'ils font ça. Fait que, en tout cas, fait que ça rajoute un autre truc intéressant. Puis donc, pour les gens qui aiment les jeux de bluff ou les jeux un peu style loup-garou, où on essaye de deviner les choses, ben, ça rajoute une coche de plus qui est intéressante.
Tout à fait. Ben, je regarde, puis ce sont des jeux qui sont quand même relativement abordables dans la mesure où tu as l'intention de faire plus qu'une partie. Ouais. Parce qu'un jeu coûte extrêmement cher seulement si tu ne t'en sers qu'une seule fois.
Oui, ben c'est ça. C'est ça le problème avec les gros jeux, c'est plus le jeu est gros, plus il coûte cher, mais souvent plus il est gros, moins tu vas jouer souvent aussi.
Exact. Ben, les opportunités sont moins.
Ouais, ben c'est ça.
Ce qui me permet de vous référer à une précédente chronique que François a fait sur comment choisir ses jeux il y a quelques semaines. Oh là là!
Tout est dans tout.
Mais effectivement, fait que Obscurio qui est à 44,99 si vous le commandez sur Amazon, mais ça reste tout de même, je crois, achetable au Randolph.
Oui, oui, mais moi je favorise toujours plus l'achat dans un magasin plus près de chez vous que par les grosses bannières sur Internet, bien que des fois les grosses bannières ont des meilleurs prix, mais pas tout le temps.
Non, exact, mais de toute façon, parfois le prix est légèrement plus cher, que ce soit dans des magasins locaux, et aussi du fait qu'une fois que tu as fait ton achat, tu es certain de ce que tu fais parce que tu as parlé avec quelqu'un qui.
Effectivement, comme on en parlait dans l'autre chronique, effectivement, c'est ça. C'est toujours mieux d'avoir des bons conseils, à moins que tu sais exactement c'est quel jeu que tu veux. Mais généralement, d'aller dans un magasin, ça va te permettre d'avoir des conseils qui vont être beaucoup plus préférables.
Exact, parce que ça reste agréable d'avoir des recommandations, de se faire proposer des choses, que ce soit à la radio ou bien sur YouTube et compagnie. Mais ça reste que c'est difficile d'avoir le feeling du jeu sans y avoir joué. Mm-hmm. Fait que dans ces temps-là, ben, c'est toujours mieux d'aller faire quelques parties avant dans des endroits qui sont spécialisés là-dedans, t'assurer que t'as un maître du jeu ou un animateur qui va s'assurer que le jeu se déroule comme il faut.
Mm-hmm. Bon, j'ai du temps à m'embarquer dans un autre jeu, moi, là.
Oui, t'as le temps, t'as le
Parfait.
temps.
Parfait! Parce que là, je voulais vous amener, justement, on parlait de communication limitée, mais là, je vous amène vers deux autres jeux qui, eux, sont une communication extrêmement limitée. Donc, j'ai The Mind, puis... un blanc. Fait que je voyais que demain en premier.
À savoir que c'était pas le nom du jeu.
Non, c'est ça. Magic Maze, qui est mon autre jeu que je pensais. C'est bon. Fait que The Mind, qui est un jeu dans lequel il faut simplement classer des cartes. Donc, on a des cartes numérotées de 1 à 5 qu'on va distribuer entre les joueurs, en tout cas un certain nombre à chaque joueur. Et puis, le but du jeu, c'est bien simplement de mettre les cartes dans le milieu en ordre croissant. Donc, du plus petit au plus grand. Sauf que dans ce jeu-là, on n'a pas le droit de parler. Mm-hmm. Fait que chacun son tour, ou la même personne plusieurs fois de suite, c'est possible aussi. On va mettre, quand on pense que c'est nous qui a la carte la plus basse, donc on regarde tous les autres, on se dit 1, 2, 3, go, OK. Quand je pense que c'est moi qui a la carte la plus basse, je la mets au centre. Puis là, si je suis là, si c'est fait, effectivement la carte la plus basse, qu'il y a personne qui a la carte la plus basse, ben parfait, on a réussi pour cette carte-là. Fait que là, maintenant, il faut mettre les autres et essayer de toutes les mettre. Puis là, évidemment, quand on met une carte, qu'il y en a d'autres qui avaient des cartes plus basses, ben, on les vont jeter, on va perdre des vies. Puis notre but, c'est de passer. En fait, il y a plusieurs niveaux dans ce jeu-là dans lequel on rajoute de plus en plus de cartes. Puis le but, c'est de se rendre le plus loin possible dans le jeu. Donc, c'est toujours ça que je dis. Le but de gagner dans ce jeu-là, c'est vraiment dur, là, surtout quand vous commencez. Là.
Ouais, ben,
c'est ça. C'est de vous rendre le plus loin possible, là. Pas nécessairement de.
Pour avoir fait quelques parties d'un jeu qui est très, très, très similaire, on a l'impression que c'est facile au départ. Puis même quand c'est avec quelqu'un que tu as une excellente communication, là, ça suffit d'une ou deux erreurs, puis tu viens de scraper ta partie. Là.
Ben non, ben c'est ça. Puis, tu sais, c'est un jeu qu'on... Tu sais, c'est une gestion du temps dans celui-là, beaucoup. Là. Donc, il y a la communication avec les yeux, un peu, là, dans la com. Hein, puis mais d'apprendre à connaître l'autre aussi, ça, c'est encore... C'est comme on parlait tantôt, là, que je trouve intéressant. Donc, tu sais, j'ai joué justement... là. En tout cas, je ne sais plus exactement avec qui j'avais joué, mais j'ai joué avec plusieurs personnes. Puis là, tu vois, cette personne-là, ah, elle, ça y prend plus de temps. Donc, avant qu'elle considère que 10 points ont passé, mettons. Ouais. Il y a un 12, puis là, toi, t'es là avec ton 30, puis là, la personne attend vraiment beaucoup, puis t'es comme, ah, ben, c'est peut-être moi. Puis là, elle met genre son 19, puis là, t'es comme, OK, clairement, on n'a pas la même horloge interne ouais. de comme, quand est-ce qu'il faut que je joue mon tour. Là. Fait que je pense qu'on peut apprendre beaucoup à parler avec les autres. Puis j'ai vu, effectivement, comment que ça peut être vraiment différent, parce que moi, je l'ai présenté à beaucoup de gens quand même, là, fait que j'ai vu beaucoup de gens jouer. Puis comment que d'un groupe à l'autre, ça peut être vraiment différent. Puis il y a des gens qui réussissent super bien, ouais. rapidement. Puis il y a d'autres qui font plusieurs games, puis ils sont comme, hey, c'est vraiment dur. Puis évidemment, plus t'es de joueurs, plus c'est rough aussi. Là.
Ouais, ben parce qu'à ce moment-là, c'est plus d'une personne qu'il faut analyser, c'est plus d'une personne qui doit être certain de l'action qu'elle va faire. Puis mm-hmm. c'est ça, c'est des mécommunications. Il y a ce que je veux dire, ce que je dis, ce que j'entends, puis ce que je pense entendre. Mm-hmm. En communication, ben là, c'est la même chose, sauf que rajoute l'élément où ce que tu peux absolument pas parler, ben ça se fait tout par le visage.
Ben non, c'est ça, juste dans le regard, puis dans connaître l'autre aussi. T'apprends à connaître tout, tu dis, ah, OK, là, je joue avec ma belle-mère, elle, je le sais. Quand elle joue, ça y prend plus de temps avec sa carte, fait que là, moi, il faut que je me calme puis que je ralentisse aussi mon rythme pour pouvoir jouer au diapason avec cette personne-là.
T'sais. Ben oui. Puis ce que ça peut aussi amener, c'est ça permet de prendre le temps, en fait, je pense. Mm-hmm. Ça permet de s'asseoir puis de réfléchir puis de rien dire. Ça peut aussi... Il y a des expériences sociales qui sont ce qu'il y a des gens qui vont se regarder dans les yeux pendant une minute puis mm-hmm. après ça, lorsqu'elles vont discuter entre elles, ça fait que la conversation mm-hmm. devient super fluide, comme si c'était toujours connu parce qu'on n'a pas l'habitude de se soutenir le regard. Ben, mm-hmm. moi, je vous invite, si vous jouez à un jeu comme ça, essayez de soutenir le regard des personnes avec qui vous allez jouer. Ça peut être beaucoup plus simple pour vous d'aller voir leurs petites expressions faciales, ouais. s'il y a des moments qui changent. Pas besoin d'être un mentaliste, il suffit juste de s'intéresser à l'autre puis d'avoir un peu d'empathie. Puis ça devient tout de suite plus facile de gagner si vous êtes compétitif. Puis en bonus, vous en apprenez plus sur vos amis.
Ouais, non, puis je pense que c'est comme tout. Il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir d'impact sur d'autres choses. Mm-hmm. Fait que si on donne ça, ça a l'air niaiseux. Il faut juste mettre des chiffres en ordre croissant, mais de voir puis de s'habituer à l'autre puis à sa façon, à ses expressions, bien, ça peut nous aider après à justement juste mieux comprendre cette personne-là dans le futur en général, à comprendre ses petites expressions, ses petits... ça permet de mieux comprendre la personne. Puis d'ailleurs, c'est une des raisons que je dis que moi, le meilleur endroit à aller à une première date, c'est dans un pub ludique de jeux de société.
Je suis quand même vraiment d'accord. Puis, pour la petite histoire, je discutais avec mes amis hier de où serait le meilleur endroit pour eux pour avoir une première date avec mm-hmm. quelqu'un. Puis je leur avais effectivement dit autour d'un jeu de société parce que tu peux rapidement voir ouais. si tu vas avoir une bonne entente avec la personne ou non ouais. parce que ça peut révéler des traits de personnalité.
C'est ça, tu peux voir beaucoup de choses. Là, comme justement, si la personne se fâche rapidement, tu vas le voir. Si elle est mauvaise perdante, tu vas le voir. Puis aussi... Si jamais la date est un peu dull, ben au moins ça fait de quoi faire. On est pas juste assis en silence en face de l'autre.
C'est ça, ça permet d'éviter les moments de malaise. Puis vu que tu joues un jeu où il y a personne qui a besoin de parler, ben ah!
Ah, c'est ça.
Formidable. Il nous reste encore une minute avant d'aller à la pause. J'en profite pour dire bonjour à Jérémy Germain qui nous accompagne
bonjour,
aujourd'hui.
Bonjour, bonjour. Désolé, j'ai pogné toutes les lumières rouges en m'en venant, là, évidemment. Là, j'étais deux minutes en retard, mais j'ai suivi la conversation avec tout le monde.
Oui, à savoir qu'il ne vient pas juste d'arriver, les dédons.
Non, non, ça fait genre 25 minutes, là, je suis ici avec tout le monde. Là, j'ai juste pas dit un mot pour pas déranger. Là.
Exact. Un véritable ninja. Donc, pendant la pause, nous allons écouter des OST de Lisa, notamment le jeu dont Jérémy va nous parler. Suite à quoi, tu pourras aussi en profiter pour nous raconter des anecdotes si tu en as.
Ah oui, j'en ai une ou deux, ouais, je pense bien.
Ça, je crois qu'on va avoir du croustillant à se faire raconter. Donc, on se dit à après la pause pour parler de Lisa, un jeu qui est indépendant,
oui.
qui a quand même un certain âge et qui est tout de même néanmoins très excellent.
Oui, absolument. Vous allez l'aimer. On va en reparler bientôt.
On s'en reparle.
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que Radio Futura vous présente son radioton sur les ondes de Chiz 94,3 FM. J'ai le plaisir de vous inviter à une émission spéciale du 17 septembre à 13h jusqu'au 18, dans laquelle nous récolterons des fonds pour permettre notre continuité après plus de 20 ans d'existence. Radio Futura est une icône dans la capitale nationale, une émission de radio qui a également représenté notre province et le Canada à l'international sur le site chiz.ca, avec une programmation culturelle, informative, de divertissement touristique et musical. À partir de maintenant, nous avons besoin de votre soutien financier. merci au Resto Bar Lima y a Yadira García, agente inmobiliario. Le Radioton de Radio Futura, le 17 septembre de Trésor, sur Chis 94,3 FM.
Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma. Solo quiero darte un beso.
Oh, je ne veux vivre sans toi, et je ne veux vivre avec toi. Mais tu peux très bien vivre sans moi, je suis foutu dans les deux cas.
Depuis 25 ans, nous, on est passé à autre chose.
Chiz 94.3, la radio que tu mérites depuis 1997.
Écoutez toujours des Kiwi Dinners à Chiz 94.3.
Donc, nous sommes de retour de la pause. Ce que vous venez d'entendre, c'est la musique qui s'appelle Men's Hair Club de Lisa. Vous avez vu, c'est un petit peu, comment dire, spécial comme soundtrack. Je vais laisser notre expert Jérémy nous en parler plus en détail. Donc, dis-moi, Jérémy, qu'est-ce que c'est Lisa et qu'est-ce que ça a de spécial par rapport aux autres jeux en pixel?
Ben, déjà, c'est un jeu indie. Ça a été fait par un seul gars. D'habitude, des fois, il y a peut-être 3-4 gars. Ce jeu-là a été fait par un seul gars. Par exemple, c'est la suite d'un jeu qui a été fait en genre au début des années 2000. Un peu bizarre, mais c'est vraiment sombre. C'est un peu platformer, ça ressemble un peu à Undertale. Si j'avais à trouver un jeu qui ressemble, c'est un Undertale. Pixel art, où il n'y a pas les graphiques, c'est vraiment dans le texte, la musique, la manière dont ce que les personnages disent, le dialogue qui rend le jeu intéressant. C'est pas les graphiques du tout ou le gameplay en tant que tel. Quoique le combat, comme Undertale, est quand même assez original. C'est un peu un QTE turn-based, un peu. Ouais. Ça ressemble un peu à ça. Fait qu'en gros, quand c'est ton tour, tu dois comme exécuter des combos avec les touches WASD. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais en gros, la prémisse de ce jeu-là, c'est un jeu très très sombre, même s'il y a beaucoup d'humour. C'est un jeu qui fait beaucoup rire, mais c'est un jeu qui à la base est très sombre. Et c'est dans un univers dans lequel il y a comme une espèce d'événement apocalyptique. C'est un grand flash, c'est comme ça qu'on l'appelle dans l'histoire du jeu. Et puis c'est pas exactement clair qu'est-ce qui s'est passé, c'est jamais vraiment expliqué, mais on comprend qu'à un moment donné, il y avait la civilisation, puis du jour au lendemain, les femmes ont disparu. Il n'y a plus de femmes sur la surface de la Terre. Et donc, tout comme tombe à l'eau. La civilisation tombe à l'eau, et puis il n'y a comme plus de sens à la vie vraiment, fait que tous les hommes font juste comme se regarder autour d'eux, et puis ils regardent leurs pieds, et puis c'est comme si tout le monde dégénérait en une espèce d'adolescent inutile un peu. Et puis il y a une drogue qui a émergé, Joy, et puis c'est un peu, on peut déjà peut-être que déjà certains d'entre vous peuvent sentir un peu l'espèce de truc sombre. C'est un univers dystopique qui a souvent été discuté, c'est un environnement sombre où un peu il n'y a pas vraiment de sens à la vie, où il semble pas avoir de possibilité d'amélioration sociale ou sociétale, et puis il y a une drogue qui émerge, et puis ça fait comme des ravages dans les rangs de la société. Et donc éventuellement le personnage Bradley, qui est un perdant comme tous les autres, essentiellement, il fait rien, il boit de l'alcool, puis sur son divan, puis il attend la fin du monde un peu. Il tombe sur une petite fille, un bébé. Et puis, c'est une fillette. Et au milieu de nulle part. Et puis, c'est jamais vraiment expliqué qu'est-ce qu'elle fait là, mais elle est là. Et donc, il la ramasse et il la cache. Il la ramène chez lui dans son sous-sol et parce qu'il a peur de ce qui pourrait se passer si jamais on la découvrait. Mm-hmm. Parce que ça se donne que le personnage Bradley. Dans son passé, il y avait une jeune sœur qui était abusée par son père. Mm-hmm. Lui aussi était abusé par le père, mais la petite fille finit par se suicider. Donc sa sœur finit par se suicider. Et là, maintenant, il essaie de se racheter un peu. Il essaie de se racheter auprès de sa sœur morte en prenant soin de cette jeune fille-là, tu vois. Et donc, il la cache, et puis il lui met un masque, et puis pour que jamais personne comprenne que c'est pas un garçon, que personne ne comprenne que c'est une fille, parce qu'il se dit, mon Dieu, si comme le monde réalise qu'il reste une femme sur la planète Terre, eh bien, la destinée est toute tracée, essentiellement. C'est comme.
On va avoir quelques sauvages qui vont se comporter en sauvages.
Ça! C'est comme. Il a très peur. Il a très peur de ça, parce qu'il se souvient de ce qui est arrivé à sa sœur avec son père. Et donc, il essaie de la protéger. Mais bon, éventuellement, le secret finit par être révélé, et puis on vient la chercher. Là c'est pas drôle. Là. On pensait que tout était fini, et puis apparemment, c'est pas fini. Tu vois, il reste encore une femme sur la planète Terre. Donc, il y a encore peut-être un espoir, tu vois. Donc, on vient la kidnapper, et puis plusieurs factions qui se battent pour elle, et puis dans tout ça, Bradley essaie d'aller comme. Après s'être fait tabasser assez violemment, il décide, un peu de manière assez humoristique, d'aller partir à sa recherche, et puis c'est un jeu où l'humour est vraiment flagrant partout, là. Même si c'est ce que j'ai écrit est quand même assez sombre.
Oui,
vraiment, le dialogue est très. Il y a beaucoup d'absurdité. Premier personnage qu'on rencontre s'appelle Terry Hintz, et puis Lord of the Tutorial. Puis il raconte au joueur un peu comment est-ce qu'il doit jouer au jeu. Puis il sert à rien, tu vois. Des fois, tu fais les 2-3 premiers combats que tu es avec, il fait genre des dégâts de 2.
Parce que les tutoriels ne servent à
rien.
Formidable.
Absolument. Mais quand tu peux l'introduire, puis t'apprends des choses, tu vois, t'apprends comment les combats fonctionnent, mais ça le fait toujours de manière humoristique. Et puis au final, Bradley se promène dans tout ce monde-là, puis tout le temps, c'est souvent présenté comme ça, souvent dans les jeux pixels, quelque chose de statique ou un personnage, par exemple, qui va danser, tu vois, tu rentres chez lui, puis il danse en discothèque, puis après, tu reviens un peu plus tard dans le jeu, puis il s'est pendu, tu vois.
Ouais. Fait que c'est vraiment quelque chose de choquant, tu vois. Tu vois un peu le puis il y a pas de dialogue, il y a pas rien. Genre, c'est juste, tu peux le manquer, tu vois. C'est juste quand tu prends la peine d'explorer. Mais non, une des conséquences de cette drogue-là, Joyce, une des choses qu'elle cause, c'est que les gens se transforment en monstres, un peu grotesques. Ils deviennent comme... ils se transforment en une espèce de ver ou en masse osseuse. Mais c'est très, très grotesque. Tu peux encore voir que c'était des êtres humains, mais ils sont intelligibles. Et puis, des fois, tu fais juste te promener, et puis t'as quelqu'un qui est assommé par la drogue à terre, et puis tu reviens plus tard, puis c'est devenu un monstre, tu vois, puis tu dois te battre contre lui. Donc, pourquoi exactement est-ce que je recommanderais ce jeu-là? Un, parce que c'est hilarant. Mm-hmm. Vraiment, même si, OK, depuis le début, je te fais juste raconter à quel point c'est sombre.
Ce que ça me fait penser, par contre, dans le contexte, c'est que, puis surtout de comment tu m'en parles, ça me fait penser beaucoup à Yakuza, la série Yakuza, parce que la prémisse est extrêmement sérieuse.
Absolument.
Mais lorsque tu regardes les clips de Yakuza, c'est toi qui es un Yakuza de 40 ans qui est en train de chanter des chansons pop idol dans un karaoké. Voilà. C'est-à-dire que la prémisse de Lisa est très sombre, mais ce qui est mis de l'avant, c'est son côté humoristique.
Tout à fait. Mais c'est comme c'est ça. Le jeu, à la base, est sombre. Il y a beaucoup d'humour. Mais à la fin, quand on se penche dessus, non, le jeu est vraiment sombre au final. Au final, c'est pas une blague, tout ça. C'est un monde assez sombre.
Exact. Mais la comparaison avec Undertale, je trouve, est quand même intéressante. Oui. Parce que Undertale, c'est un jeu que tu pourrais donner ça à un enfant de 11-12 ans. Puis même,
ouais, bon, d'ailleurs, j'ai vu des enfants de 11-12 ans qui ont trippé ce jeu.
Ben, exact. Puis c'est super plaisant parce que t'as des squelettes qui font des jokes avec des jeux de mots du type os. T'as des bruits de pète. C'est très grotesque. Là, à un moment donné, tu frappes sur un dummy, puis si tu frappes trop dessus, tu blesses ses sentiments, puis il s'en va, genre. sauf que lorsque tu commences à gratter, ben, l'histoire globale d'Undertale, elle est vraiment sombre.
Quand même, vraiment, oui. Ça paraît pas, mais oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai voulu mentionner Undertale. Ça y ressemble vraiment beaucoup. Ouais. Ça a été fait. C'est pas que ça t'a inspiré, parce que ce genre de projet-là, ça prend 10 ans là, quand c'est un seul gars qui le fait. Comme ça, fait qu'il y a pas l'inspiration là, mais il y a beaucoup de parallèles à y voir. Et à vrai dire, moi, une raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé, à vrai dire, le combat, la musique, elle a des blagues. Ce qu'on a écouté, c'est comme une musique un peu rétro, peut-être même un peu 8-bit. Il y a pas vraiment d'instruments, c'est très électronique un peu, mais ça fonctionne très bien avec le combat. Il y a toutes sortes de personnages comiques qu'on peut rencontrer. T'sais, par exemple, à un moment donné, il y a une scène assez comique. D'ailleurs, Video Game Donkey, en fait, si vous connaissez sur YouTube, a fait une vidéo sur Lisa, si jamais ça vous intéresse, pour voir un peu à quoi ressemble le mot du jeu. Mais bon, à un moment donné, il tombe sur un orphelinat avec un bonhomme, un gros costaud fort, puis il y a tout un bon petit garçon, là, puis il est un peu chaleureux, lui dit à John, arrête de jouer avec ta bille, là, puis Steve, là, lâche les allumettes, quelque chose comme ça. Puis il dit, hey, veux-tu aller chercher de l'eau pour moi? Ouais, non, pas cette eau-là, non. L'eau un peu plus loin, fait que c'est comme un platformer, fait que tu t'éloignes un peu, tu perds de vue, puis après tu reviens, puis tu lui donnes le seau, et puis il la jette dessus, puis après ça sonne que c'est de la gasoline, fait que le petit garçon part en feu.
Wow.
Et
puis
là, c'était pas ça saut là, c'était l'autre saut plus loin. Et puis la caméra t'amène genre un peu plus loin, puis là, il faut que tu ailles chercher, et puis tu le ramènes, puis là, c'est un paquet de cendres, là, puis là, voilà, me dit, oh. C'était ma seconde carrière, ça. C'est malheureusement, ça finit, elle a fini en flammes. Quelque chose comme ça, tu vois. C'est...
Ouais.
Il y a beaucoup d'humour. Puis après, ben c'est ça. Après, tu rentres dans la maison du bonhomme qui faisait de la rave, puis là, il s'est pendu.
Ouais, fait que genre, ça, je comprends, c'est que c'est un humour très dark qui se base un peu sur l'absurdité de la vie dans le contexte qu'ils
c'est
sont.
Ça,
ben, là,
c'est ça. Un peu, c'est un commentaire social, tu vois. C'est ça. Je veux dire, le thème principal du jeu, c'est les femmes. La femme. Mm-hmm. Et puis, t'es dans un monde où il n'y a juste plus de femmes.
Il n'y en a pas.
Et puis, tu peux voir, ben, c'est ça. Puis, tu peux voir un peu la conséquence sociale que ça a sur les hommes. C'est ça, ben, c'est sur les hommes surtout, toi, parce qu'il y a juste une fille dans le jeu, Lisa, mais il y a tous les autres personnages, ce sont des hommes, tu vois. Puis, tu peux voir un peu à quoi ressemble le monde, ou ressemblerait peut-être le monde si t'avais juste des hommes, toi, puis comme plus de raison d'être. Toi.
Donc, mesdames, selon le jeu, si vous deviez tous disparaître demain, nous redevenons tous des hommes de Cro-Magnon, la civilisation s'effondre.
Ben oui,
vous êtes
ça.
La raison pour laquelle il y a une société.
Ça, je me dis, les femmes disparaissent, ça devient un jeu d'horreur. Les hommes disparaissent, ça devient plus un jeu comme de jardinage puis de construction d'une société. Non, pas dans le sens... Non, t'as plus. Je me laisse mal interpréter. Je pense à un jeu spécifique, mais je me souviens plus du nom, c'est ça le problème. Mais tu sais, plus d'idée
ça
de...
Ça devient un jeu de gestion ou ce que tu
de gestion de construction de la société, puis d'essayer de faire de quoi.
Bref, la blague étant, les femmes disparaissent, la société s'effondre, on redevient des hommes de Cro-Magnon. Les hommes disparaissent, la société continue parce que les femmes sont civilisées.
Tout à fait.
Blague très stéréotypée.
Oui, il y a beaucoup de losers dans le jeu, mais aussi des hommes tragiques qui vont essayer de sauver la situation. Comme je dis, il y a plusieurs factions qui essaient de se battre pour elles.
Ce qui me fait bien marrer, par contre, c'est que le jeu a vraiment poussé l'ironie au vont plus loin. C'est-à-dire que le jeu est sorti en 2014, mais on parle du 15 décembre, donc 10 jours avant Noël, qui est une fête qui est normalement extrêmement joyeuse. Mm-hmm. Donc je sais pas s'il s'est dit que pour Noël, ça serait intéressant d'acheter à aux utilisateurs un jeu.
Et à vrai dire, peut-être un détail intéressant, tous les personnages sont problématiques, incluant le protagoniste lui-même. Mm-hmm. Oui. Parce qu'après tout, on pourrait se demander, ouais, c'est-tu raisonnable ça, de juste, tu sais, c'est quand même la fin de l'humanité, puis peut-être c'est pas déraisonnable. Oui, ça a l'air. Parce que son destin à la fille est écrit. Quand t'es la dernière femme au monde, genre, la raison pour laquelle t'es précieuse est assez claire, tu vois. Mm-hmm. Mais tu aurais se dit, ouais, mais c'est pas mauvais non plus, tu vois. Là, c'est-à-dire, tu peux comprendre pourquoi les gens penseraient comme ça, tu vois. Puis ultimement, il y aurait raison de toute manière. Puis Bradley, ben, lui, il s'y oppose, tu vois. Comme de manière égocentrique un peu, pour comme satisfaire un peu son désir de rachat personnel. Mm-hmm. Pour la sœur qu'il n'a pas pu protéger, tu vois.
Ça, tu vois, on y retrouve un peu du Last of Us là, avec le Joël.
Oui, tout à fait, exactement. Ben ouais, ultimement, Joël, ben, est-ce qu'il avait raison? Probablement. Il y avait tort quand il a pris cette décision-là.
Ah oui, ben là, ça par contre, pour moi, c'est une évidence que Joël, c'est clairement le méchant dans les jeux. Mm-hmm. C'est pas parce qu'on joue puis qu'il y a des bonnes raisons que c'est pas lui qui est le méchant.
Exactement, tout à fait.
Non, mais c'est vrai que c'est complexe des fois, les questions de notre émotivité. Aha. Versus le bien final. C'est quoi, qu'est-ce qui est le mieux de faire? Ce qui est objectivement bien dans le contexte, ou ce qui va amener une conséquence plus positive?
Ouais. À vrai dire, le dev, à un moment donné, quelqu'un lui avait demandé sur un forum quel était le personnage qu'il aimait le moins, puis sa réponse était Lisa. Donc pour lui, c'était elle. Le pire personnage jeu, c'était elle. Donc pas pour dire que c'est tout un petit ange aussi. Là, tu peux développer toutes sortes de complexes quand tu réalises que t'es la personne la plus importante au monde, tu vois. Mm-hmm. Fait que non, c'est vraiment franchement intéressant comme jeu. Ça dure pas longtemps, peut-être que c'est un petit 8 heures. Ça coûte pas cher non plus sur Steam, franchement. Je sais pas si c'est en rabais comme d'habitude, là. La plupart des jeux que je présente sont tout le temps en rabais d'habitude. Je sais pas si celui-ci, je vérifie jamais, hein, je vous le dis. Hein, moi, je suis juste débarqué ici.
Il est pas particulièrement cher. C'est-à-dire que le jeu est à 10,99 si vous l'achetez sur Steam. 18$ si vous voulez acheter la soundtrack puis avoir les art. Mm-hmm. Le jeu a quand même des reviews qui sont assez positives, là. C'est-à-dire qu'on a du 10 sur 10, on a du 9,5 sur 10. C'est un jeu qui a beaucoup marqué, puis aussi, c'est comment tu m'en parles, c'est qu'il vient apporter une perspective qui est différente, là. C'est-à-dire que c'est pas une opinion que moi, personnellement, je partagerais, ou c'est pas quelque chose qui nécessairement viendrait m'attirer, mais je pense que ça peut être une réflexion intéressante de se dire, OK, quelle serait une perspective possible si tel scénario.
Puis dans le coup, c'est tout le temps humoristique, c'est toujours absurde, c'est toujours une parodie. Même au final, on peut juste jouer au jeu sans trop prêter attention au contexte sombre du jeu, puis les blagues sont hilarantes, le contexte, le texte, c'est vraiment juste merveilleux. Moi, j'ai à la fois ri, puis à la fin, j'étais genre, waouh, OK, c'est quand même déprimant un petit peu, là, mais c'est comme les deux en même temps. D'habitude, les jeux qui ont n'importe quelle forme d'art capable de jongler deux sentiments aussi diamétralement opposés. D'habitude, ça l'illustre que l'artiste a fait un très bon travail.
C'est effectivement
ça.
Un bon travail, parce que rire quand ta prémisse est autant sombre, c'est pas mince affaire, effectivement.
Tout à fait.
D'ailleurs, j'en profite pour mentionner que c'est un jeu qui a été fait sur RPG Maker. Ah. Donc, RPG Maker, on s'entend, là, ça prend quand même un certain niveau de compétence, sauf que si t'es relativement créatif, tu peux faire des choses très très hautes avec RPG Maker sans avoir des grosses connaissances en code. Toby Fox lui-même, Mike Undertale l'avait dit, c'est pas un codeur, mais il a été capable de se débrouiller avec ce qu'il y avait. Et on parle aussi d'un jeu qui a été publié par Dingaling Production, qui j'imagine est la société de la personne qui a développé le jeu.
Tout à fait, une personne en gros. Une société.
On parle d'un jeu qui n'existe pas sur les consoles.
Non,
si
c'est un
je
jeu de PC uniquement à ma connaissance, oui.
Donc PC Master Race, j'ai
envie de dire. Absolument, comme toujours, ça ne va jamais changer ça.
Et parlant du fait que dans ce jeu, il y a une drogue du nom de Joy, on va se mettre à parler de musique, de tout ce qui va toucher le show business avec Judith, qui est allée nous voir le film Elvis, celui qui est récent, donc de 2022. Parle-nous un peu de ton expérience, Judith.
Mon expérience? Moi, je suis allée le voir avec ma tante. Dans le fond, je vois souvent les films avec ma famille. Mais elle est allée le voir 4 fois.
Wow!
OK, c'est une femme. On peut comprendre c'est fantaisie de jeune femme, donc.
À la dernière émission, on se faisait raconter que sa mère tripait énormément Tom Cruise. Maintenant, on apprend que la grand-mère, c'est Elvis. Dans une prochaine émission, on va peut-être découvrir sur quoi est-ce que Judith trippe.
Peut-être. Mais ouais. Mais moi, je l'ai trouvé bon, là. Mais une fois, c'est correct. C'est un long film. Tu sais, tu le vois, il est tout petit, puis tu finis jusqu'à sa mort, puis ouf, il y en a beaucoup, là. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est la... T'as la version du colonel. qui est son gérant, là. Puis c'est Tom Hanks qui le fait. Fait que je suis capotée, là. J'aime bien cet acteur-là. Puis tu le reconnais pas, là. Mon Dieu, il est gros là-dedans.
Ah ouais?
Ah oui, puis... Wow. Ah ouais. Puis, mais il est super bon, t'oublies que c'est lui. Puis tu vois qu'il est très à l'argent, là. Surtout la partie quand ils sont à Las Vegas, là. Parce que lui, il a pas le droit de sortir des États-Unis. Puis il force Elvis à rester aux États-Unis. Fait que c'est triste, c'est comme... Il est jamais allé en Europe, sauf quand il est allé à guerre. Il est toujours resté pris là. Fait que c'est comme, OK... Mais Elvis, il est pas mieux, là. Tu sais, des fois, il embrasse toutes ses fans, puis sa femme est là. C'est pas terrible.
Ah, le monsieur avait une vie rock'n'roll,
ouais. Ouais, non, c'est ça. Non, c'est un drôle de personnage, Elvis.
Ouais,
c'est
ouais.
C'est ça. Pas juste une bonne personne.
Non, mais tu l'aimes pareil. Ben il a tellement fait beaucoup pour le divertissement, puis le rock'n'roll. Même s'il se prend pas pour le roi, il a quand même amené vraiment beaucoup. Donc,
c'est de qui,
rien à dire, là. Ouais. Moi, je trouve que c'est The King, même si lui, il le dit pas, là.
Fait que tu nous disais que... Lui-même dit pas qu'il est le King.
Non, lui, il dit, genre, le roi, c'est Jésus. Genre, moi, je suis juste...
Juste un gros bon ordinaire.
Ben, pas ordinaire, parce qu'il...
Elvis se prenait pas pour ta marde, là.
Non, c'est ça, là. Il sait que...
Il sait qu'il
vivait pour les fans, là, pour vrai.
OK. Mais fait que le roi, c'est vraiment un nom qu'on lui a donné, là.
Ouais, ouais, c'est...
Puis tu nous disais que parce que des rétrospectives ou des films biographiques sur Elvis, il y en a eu beaucoup, sauf que tu nous disais que cette fois-ci, leur angle de traitement, c'est qu'on est du point de vue de son gérant. J'imagine que le réalisateur a discuté avec... corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que son nom, c'est le colonel Tom Parker.
Ouais,
mais
c'est ça.
Donc, est-ce que le réalisateur a fait ce genre de recherche-là?
Je peux aller aussi loin que ça, mais c'est vraiment intéressant. Je sais pas si j'ai le droit de spoiler la fin, là, mais moi, j'étais comme...
En même temps, en théorie, la vie d'Elvis, c'est...
Ben, normalement, c'est comme ça se fait.
Ouais, c'est ça.
Est-ce qu'on pourrait censurer la page Wikipédia aussi? Tous les détails vont être là-dessus, je pense.
Là, j'ai envie de dire, si vous savez pas qu'avant la vie d'Elvis, c'est terminé, c'est pas notre faute. Donc mais, oui, tu peux divulguer allègrement.
Ouais,
alors on est au courant de l'histoire.
Je m'excuse pour ceux qui n'ont pas vu le film. Mais ça finit parce que tout le long du film, il dit « Tout le monde pense que c'est moi le méchant dans l'histoire. » Puis il y en a d'autres qui disent « Ben, c'est Elvis, tu sais, il était dans la drogue et tout ça. » Puis ça finit, puis il dit « La faute pourquoi qu'Elvis est mort, c'est vous. » Là, t'es comme « Quoi? Quoi? » OK, c'est
vous,
nous autres,
dans
les
le spectateur.
Fans. Ouais, ouais, c'est ça. C'est nous qui l'a détruit. Il était pas capable... Tu sais, à Las Vegas, tu le voyais, genre, il se donnait en linge, il se donnait en musique, il allait chercher plein de monde, puis comme ça va être la meilleure expérience de leur vie, ça va pas juste être moi qui fais des petits moves, là.
Non, c'est un showman, là.
Ah, ouais, ouais. Fait que quand ça finit de même, t'es comme, OK, c'est de ma faute, là, qu'il me mord.
C'est courageux de la part du film, quand même, de nous pointer du doigt.
C'est très intéressant parce que, tu sais, souvent, les artistes qui comme, s'autodétruisent, c'est une histoire qui est très vieille, tu vois.
Ah ouais, c'est vieux comme le monde.
C'est vieux comme le monde, des artistes qui s'autodétruisent comme ça dans les siècles passés, pas juste depuis la seconde moitié du 20e siècle. Et puis souvent, c'est qu'on va blâmer leurs gérants ou leur famille ou peut-être eux-mêmes, puis évidemment, ils ont une part de responsabilité dans tout ça. Tous ces partis ont une part de responsabilité, mais jamais t'examines un peu ce que les fans ou ce que le grand public fait
c'est
la
ça,
pression.
Juste la popularité en elle-même, c'est quoi l'effet que ça peut avoir sur une personne? Là,
ben exact, il y a un contexte social à garder en tête, puis ça, c'est quelque chose qui a été très exacerbé avec les réseaux sociaux, mais qui était tout de même très vrai à l'époque. Ça peut être beaucoup de pression, avoir autant de gens qui nous glorifient, avoir autant de gens qui, pas te dépendent, mais qui s'attendent de toi, que tu performes, que tu sois toujours au top. Tu peux rapidement perdre le nord, là, tout à fait.
Ben, surtout quand tu deviens une icône comme lui, je veux dire, c'est même plus juste un artiste. Je veux dire, c'était presque mythologique à un sens. Ta figure, ta face partout, je veux dire, tu transcendes la culture, tu transcendes ton pays, tu transcendes ta langue. Tu deviens un sex symbole planétaire, une référence culturelle planétaire.
Il y a des gens qui se marient en prétendant que c'est toi leur prêtre.
Exactement.
Là,
c'est vraiment mythologique. Donc, t'as peut-être facile à gérer, genre, se regarder dans le miroir après puis comprendre, wow. OK, là, c'est...
Non, c'est une autre réalité. Ta vie t'appartient plus entièrement.
Non,
je pense juste être malade, je pense à ça. T'annules un show parce que t'es malade.
Il y a
beaucoup de gens qui vont comprendre, mais t'en as plein qui vont être comme « Ah, il a annulé mon show, j'attendais depuis tellement longtemps. » Mais c'est une personne qui doit vivre.
Ah, mais il y a une scène, là, il est à terre, là, plus capable. Puis le colonel, il est comme genre « Shoot-le avec n'importe quoi. » Il se ramasse à la scène, là.
Ouais, show must go on, comme on dit.
Ah, ouais.
Tu sais, le mode de pensée pas du tout toxique, là.
Oh, c'est ça.
Mais effectivement, parce que ça, c'est en, parce que moi, j'ai pas encore vu le film, je prévois le faire éventuellement, mais de ce que j'en comprends, là, son producteur, le colonel, il poussait au bord de ses retranchements, là. C'est-à-dire que si Elvis n'était pas en mesure de performer, il fallait qu'on lui donne quelque chose pour. Tu sais, j'imagine qu'il y avait de la drogue là-dedans, là. Fallait qu'il soit capable de se lever, qu'il aille donner son show, puis ensuite, on s'arrangera avec les dégâts collatéraux après, là.
Ouais,
fait que le gars, c'est pas son bien qu'il a à cœur, c'est vraiment l'aspect financier, c'est le showmanship.
Mm-hmm. Surtout vers la fin, là. Au début, tu sais, c'est un businessman, mais t'es comme, bah, OK, c'est pas si pire. Mais vers la fin, là, la partie Las Vegas, c'est la pire.
Mm-hmm.
Puis il fait faire le tour des États-Unis, puis il a même pas le temps de dormir.
Las Vegas, c'est la ville qui ne dort jamais.
Ouais, mais là, il fait son tour d'Amérique, puis après ça, il fait son show à Las Vegas. Mm-hmm. Son tour d'Amérique, il prend l'avion, il fait son show, il prend l'avion, il fait l'autre état. Puis ça arrête pas, là.
Mm-hmm.
Jamais il va arrêter à l'hôtel dormir, là.
C'est fou, ça, quand même. Mais aussi, le truc que je trouve intéressant par rapport à tout ce qui touche à la vie d'Elvis, c'est de voir qu'est-ce qui l'a amené à ce mode de vie-là, en fait. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est exploré? Parce que tu dis qu'on a tout ce qui est son enfance. Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique ça par rapport à l'enfance d'Elvis ou qui a eu ce besoin de vivre pour les fans?
Il y a comme une grosse passion là, de la musique. Puis lui, il était. Ils ont déménagé dans un secteur quand même assez pauvre. Donc, il y avait un secteur de noirs. Fait qu'il s'est vraiment inspiré de leur musique, le jazz. Puis tu le vois, il est comme dans un genre de trance, là. Il est comme plus là, là. Il vit dans la musique. Puis à partir de ce moment-là, il vit pour ça.
Mm-hmm. Puis au niveau des maquillages, de l'éclairage, tu disais Tom Hanks, c'est méconnaissable. J'en conclus que c'est une réussite de ce côté-là. Le maquillage était bien fait.
C'est un bon acteur aussi, fait qu'il pourrait pas être maquillé. Puis
il serait bon pareil.
Mais...
Ouais, effectivement, on a juste à penser à son rôle de Forrest Gump. Là. Le maquillage est très minime, on reconnaît Tom Hanks, mais on voit Forrest Gump, même si on sait que c'est Tom Hanks. Là. C'est très difficile de voir l'acteur. On voit beaucoup le personnage quand c'est Tom Hanks qui joue. Même sur la ligne verte, en fait, je veux dire, il y a très peu de maquillage. On sait que c'est Tom Hanks, mais on voit son personnage surtout et avant tout. Il y a cette aura qui est très forte où peu importe qu'est-ce qu'il va jouer, c'est tout le temps le personnage que tu vas voir. Puis ça, c'est dur, particulièrement quand tu as un acteur qui est relativement connu. Moi, Chris Evans, Captain America, quand je regarde d'autres films, j'ai de la difficulté à pas voir Captain America. Puis un acteur qui se bat avec son aura d'Harry Potter, c'est Daniel Radcliffe. Tous les films qu'il fait, il fait ce qu'il peut pour
s'émanciper de son passé, s'affranchir de ce rôle.
Il fait tellement n'importe quoi maintenant.
Il fait des films là, qui sont qui vont dans tous les sens. Là. C'était quoi? C'était Akimbo quelque chose? C'était un film où ses mains deviennent des guns, genre, puis là, il se promène.
Ah,
puis
j'ai pas vu ça.
Fait que, il est parti dans des délires.
À vrai dire, il y a quelque chose de similaire qui s'était fait avec, je pense, qui s'appelle Elijah Wood, l'acteur qui joue Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Puis à un moment donné, il jouait dans un film Sin City, de Frank Miller, ou de la banque d'adaptation de la BD de Frank Miller, puis il joue une espèce de cannibale muet, genre ça choque. Je reconnaissais encore le petit Frodon là-dedans, là, puis ils vont dire, là, tu le vois, en train de manger des prostituées, puis t'es genre, qu'est-ce qui s'est passé? c'est la version où il a gardé l'anneau trop longtemps. Là,
avec les lunettes qui flashent sur un ancien City, c'est un film qui est très, très dark. Mais parce qu'il nous reste seulement 40 secondes avant de devoir se quitter, j'en profite pour mentionner que puisque Elvis est une icône, ça va plus loin que ça, parce que même dans les médiums vidéoludiques du style de Fallout, leur théorie, en fait, c'est que si demain il devait y avoir un Fallout, toute la société s'effondre d'ici 200-300 ans, lorsque des gens vont retrouver des musées, là je parle de New Vegas, ils vont retrouver les costumes d'Elvis et être persuadés qu'on voit un culte à cette personne, qui au final c'est pas si vrai quand même. Et ils vont se demander si Elvis n'était pas un dieu. Dans Fallout New Vegas, il existe une faction qui s'habille comme le King et qui doivent l'imiter. Puis ils disent, OK, il y avait des écoles pour faire comme lui. Ils voient un culte, c'était forcément un dieu. Donc, comme de quoi Elvis a effectivement transcendé plus que ce qu'on pense. qui est tout de même très phénoménal. J'en profite pour remercier nos chers auditeurs de nous suivre fidèlement à chaque semaine et pour remercier nos chroniqueurs. François, toujours aussi intéressant. Toujours le fun d'en apprendre plus sur les kinks de ta famille, j'ai envie de dire. Non, je t'agace. Et d'avoir des jeux qui sont pas nécessairement polarisants, mais qui sortent des sentiers battus avec toi, Jérémy. Donc, c'est toujours un plaisir de vous avoir.
Des trucs un peu plus obscurs.
Ouais, plus obscurs. Et j'espère que l'on se reverra la semaine prochaine pour une autre émission de Des Kiwis et des Nerds sur les ondes de Chiz 94.3. Merci à tous.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Cet automne, donne un break à ton ordi. La Cadel, en collaboration avec Chiz 94.3 et Impact Campus, présente le retour sur scène du show de la rentrée. Trois scènes, une dizaine d'artistes, dont Calamine, Rouge Pompier, Petit Tom, Sam Faye et même un invité mystère. Rejoins-nous mercredi 14 septembre, dès 21h, au pavillon Desjardins-Pollac. En passant, étudiant ou pas, c'est très, très gratuit.
Sur une distance de 20 mètres, la Coupe Vanier au bout du pied.
Frappé solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.